Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Et on fait un premier point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La canicule qui dure depuis le début du mois doit en principe atteindre son pic vendredi.
Ah oui, une vague de chaleur qui touche toute la France, à quelques rares exceptions le long de la Manche. 93 départements sont en restriction d'eau, les deux tiers sont dans une situation critique. On tente d'économiser l'eau partout, mais Sofiane Aklouf, je me tourne vers vous. Qui en consomme le plus ?
Alors là, on parle de l'eau consommée, c'est-à-dire celle qui n'est pas restituée dans les milieux aquatiques une fois utilisée, contrairement à l'eau prélevée. Les volumes annuels d'eau consommée, il est estimé à 5,3 milliards de mètres cubes en France métropolitaine, ce qui représente 82 mètres cubes par habitant. Un volume qui est inéquitablement réparti entre les activités. La plus consommatrice, et de loin, c'est l'agriculture, avec 45% du total, devant le refroidissement des centrales électriques pour 31%. Plus étonnant, seulement 20% de l'eau potable en France est destinée à la population, pour notre usage quotidien. Viennent ensuite les usages industriels pour 3 à 4% du total.
L'agriculture consomme une part importante, Sofiane. À quoi sert-elle cette eau potable concrètement ?
Alors avant tout, à irriguer les cultures. Là encore, toutes ne sont pas aussi hydrovores. Le maïs est largement en tête, avec 41% de la consommation, loin devant les autres céréales, comme le blé. Les fruits et légumes sont loin derrière, là encore, avec 13%. Mais cette eau potable, elle sert aussi, on le sait, à alimenter le bétail et dans une moindre mesure à assurer l'entretien des bâtiments.
Et en ce qui concerne notre consommation domestique, Sofiane, il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on consomme 148 litres d'eau par jour et par personne.
Oui, ce qui fait 329 litres d'eau par foyer et par jour, selon l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Et dans la très grande majorité, cette utilisation est liée à l'hygiène. Dans le top 3, les bains et les douches, les sanitaires et dans une moindre mesure, le lavage du linge. L'alimentation arrive loin derrière. Et maintenant qu'on connaît les chiffres, il reste une question. Qui doit faire des gestes pour parvenir à une sobriété hydrique ?
Et justement, c'est la question ce matin. Tout le monde se renvoie la balle quand il s'agit de faire des économies. On parlera tout à l'heure à 8h15 à la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Elle nous expliquera pourquoi c'est compliqué pour les agriculteurs. Et puis on parlera des piscines. Les piscines qui, sont toujours très nombreuses en France. 3 millions d'eux en fin d'année. Ils refusent d'être les boucs émissaires. On verra pourquoi juste après ce journal.
Et Stéphane, on vient de le voir, l'activité la plus gourmande dans nos c'est l'agriculture, vous en parlerez justement. Et la sécheresse fait craindre le pire pour nos stocks alimentaires, mais aussi pour les éleveurs. La FNSEA alerte, on pourrait manquer de lait à l'automne et certains producteurs risquent de se retrouver en très grande difficulté en cause. Le fourrage, moins de 10% des récoltes sont irriguées. Or sans fourrage, impossible de nourrir les bêtes, Laura Combeau.
La sécheresse frappe de plein fouet les deux composantes essentielles du fourrage, l'herbe et le maïs. Leur croissance s'est stoppée très tôt. Michel Moquet, spécialiste de l'Institut agricole Arvalis, prévoit déjà une année catastrophique.
Sur la partie production d'herbe au printemps, globalement, on parle de moins 20, de moins 30% par rapport à une année normale. Et sur le maïs, depuis maintenant une quinzaine de jours, on a déjà eu des premières récoltes, ce qui est quand même exceptionnel pour cette culture, où les chantiers se déroulent plutôt... On va dire fin août, début septembre d'habitude.
La majorité de la production est destinée à l'alimentation des animaux. Seulement les prés ont brûlé et les stocks de fourrage pour l'hiver sont déjà entamés depuis juin. Les éleveurs vont donc devoir en acheter. Or, avec la guerre en Ukraine, les cours des céréales n'ont jamais été aussi élevés. Plus de 300 euros la tonne de maïs en ce moment.
Les éleveurs seront peut-être obligés de vendre une partie de leurs animaux pour pouvoir passer cette période difficile. Donc ça peut avoir des répercussions sur la production laitière. Ça peut avoir des répercussions aussi sur le marché de la viande.
Pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, les éleveurs devront s'adapter, notamment en changeant leur production et en adaptant le calendrier des récoltes.
Avec la fin de la pandémie, il semblerait clair qu'on soit revenu à des modes de consommation un peu plus traditionnels.
Ah oui, le e-commerce s'en ressent et dans son sillon, les entrepôts qui attirent de moins en moins les investisseurs. Ce marché qui a explosé avec la crise Covid commence à donner des signes de faiblesse. Selon des chiffres compilés par le Financial Times, la demande ralentit et les prix baissent. Caroline Morisseau.
Éclatement d'une bulle ou simple ralentissement du marché, c'est en tout cas la fin d'une période d'euphorie sur le marché des entrepôts. Depuis quelques années, les investisseurs se sont en effet rués sur ces biens qui avaient tout pour attirer. Une forte demande liée au boom du e-commerce, alors qu'à l'inverse, les bureaux et les magasins étaient désertés pendant la crise Covid. Tout cela dans un contexte de taux bas. Seulement voilà, depuis quelques mois, la donne a changé. Le commerce en ligne ralentit, les taux remontent et font baisser le rendement locatif. Tout cela se ressent déjà sur le prix des entrepôts. Ils ont perdu 5 à 10% sur l'ensemble de l'Europe depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, où le marché est particulièrement développé, on est même sur 10 à 20% de baisse. Pour certains analystes, c'est une simple correction et le marché a encore de belles perspectives. Car si la demande ralentit du côté du commerce en ligne, les commerces traditionnels pourraient bien prendre le relais face aux pénuries et à la hausse du carburant. De plus en plus cherchent en effet des entrepôts pour stocker leurs marchandises au plus près de leurs clients.
Il est 7h06, on va vous parler d'un produit de saison, la glace, et on va vous parler précisément du procès intenté par Ben & Jerry à sa maison mère Unilever, le fabricant de glace donc bien connu pour ses prises de position.
Fin juillet, la marque défendait sur son compte Twitter une taxation des super profits avec ces termes crus: les profits des compagnies gazières sont immoraux et contraires à l'environnement. Plutôt, le groupe défendait le droit à l'avortement, mais sa maison mère ne suit pas forcément ces prise de position. Unilever veut vendre l'activité de Ben & Jerry's en Israël. Ce dernier s'y oppose. La justice américaine doit se prononcer aujourd'hui. Virginie Cook.
Pour comprendre les raisons de ce bras de fer, il faut revenir un an en arrière. L'été dernier, Ben & Jerry's, connu pour ses engagements en matière d'écologie ou de respect des droits de l'homme, prend une décision très médiatisée: ne plus vendre ses glaces dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. En réponse, il y a 2 mois, la société mère Unilever décide de céder la branche israélienne de Ben & Jerry's à Avi Zinger, le détenteur de la licence locale. Une opération qui permettrait de redémarrer l'activité dans les colonies israéliennes. Mais pour la marque, cette cession menacerait son intégrité et sa réputation qu'elle a mis des décennies à construire. Pour bloquer la vente, Ben & Jerry's a donc porté l'affaire en justice. Cette bataille met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui prennent position sur ce sujet. Il y a 3 ans, Airbnb avait arrêté de louer des logements dans les colonies israéliennes avant de revenir sur sa décision.
Dans l'actualité internationale, la Chine utilise ses exercices pour préparer une invasion de Taïwan, affirme le chef de la diplomatie de l'île. Taïwan qui réplique et entame cette nuit un exercice de défense à balles réelles. Un deuxième est prévu jeudi. Les deux entraînements doivent provoquer le déploiement de plusieurs centaines de soldats et d'environ 40 obusiers, c'est ce qu'a indiqué l'armée taïwanaise, même si Taipei assure que tout était déjà programmé et qu'il ne s'agit pas d'une réponse aux manœuvres militaires de Pékin. Dans l'actualité également, la Russie lance un satellite iranien d'observation. Départ prévu depuis la base russe de Baïkonour au Kazakhstan à l'aide d'une fusée Soyouz. Ce satellite a officiellement pour but de surveiller les frontières du pays, mais aussi d'améliorer la productivité agricole et de contrôler les ressources en eau. Les États-Unis y voient des fins militaires et suspectent Moscou de vouloir l'utiliser pour sa guerre en Ukraine. Autre inquiétude pour les Américains, relayée par le Washington Post, la Russie envisagerait d'utiliser le satellite pendant plusieurs mois dans le cadre de son offensive en Ukraine, avant d'en céder le contrôle ensuite à l'Iran. Information démentie par Téhéran.
Merci Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le prochain journal.